Décryptualité, semaine 49. Salut Manu.
Salut Luc.
Bon, ce sera notre dernier podcast de l'année. On va faire 2 semaines de pause pour les fêtes, mais on reprend en 2022.
On reprend en 2022. Peut-être 3 semaines, hein, faudra voir au niveau des calculs de semaines.
Très bien. Alors, premier article, ZDNet France, la Commission européenne veut mieux diffuser ses logiciels open source, un article de Thierry Noisette.
Effectivement, de grosses évolutions qui sont en train de se faire jour au niveau de l'Europe, des institutions. Ils veulent faire du logiciel libre. Alors, ils appellent ça open source, hein, mais de fait, ça va être du logiciel libre, c'est-à-dire qu'ils vont mettre sur des dépôts et sur un dépôt unique tous les logiciels qui seront développés par la Commission. Alors, on peut imaginer que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va certainement prendre un temps, mais en tout cas, c'est quelque chose de hyper positif dans l'optique de réutiliser et de permettre à d'autres nations de reprendre un petit peu ce qui est fait là. Donc, il y a pas mal de bonnes billes. Alors, dans les premiers trucs qui étaient mis en avant, la signature électronique, le fait de pouvoir faire des contrats, on va dire, par Internet, mais aussi, alors, je trouve que c'est assez approprié, l'édition de législation. Et effectivement, il y a quand même pas mal de pays en Europe qui font chacun leur loi. Donc pourquoi pas essayer de faire, sous forme d'un logiciel libre, partager un outil pour éditer les codes légaux. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ça a l'air déjà d'avoir un impact en Allemagne, en Espagne et en Grèce. On peut espérer que la France s'y mette aussi, parce que autant développer le code commun à nos sociétés avec du code libre.
La Tribune, Cloud, les PME européennes ont été ignorées par les stratégies nationales et Bruxelles. Donc, un entretien mené par Sylvain Roland.
Et donc, avec Jean-Paul Smets, PDG de Nexedi. Lui, c'est un libriste depuis longtemps, on l'a rencontré à l'April.
Là, il parle au nom d'une association qui fédère 26 acteurs du cloud européen.
Donc, c'est Euclidia.
Oui.
On a déjà abordé le sujet la semaine dernière. Ben voilà, ils veulent faire remarquer qu'ils ont leur mot à dire dans l'informatique en nuage. Et il n'y a pas que les entreprises américaines qui existent. Et ce n'est pas juste en faisant des récupérations de leur code, mais managé par des équipes européennes, qu'on va s'en sortir quoi, et qu'on va développer de vraies compétences et de vrais outils. Non, à un moment donné, il faut faire confiance aux sociétés qui existent déjà.
ZDNet France, Donald Trump lève 1 milliard de dollars pour financer son réseau social. Un article de la rédaction.
Alors, on a déjà abordé le sujet, mais c'est en continuelle évolution et ça va continuer à évoluer, il n'y a pas de doute. Donc là, il y a 1 milliard de dollars qui ont été levés sur les marchés américains.
Bon, ça commence à faire une bonne somme,
oui. Oui, il y a de quoi faire. Puis surtout, on avait abordé ça, c'est que le réseau social qui est en train d'être déployé par Donald Trump, il est basé sur Mastodon, une sorte de Twitter dans l'idée, mais beaucoup plus avancé, décentralisé notamment, et puis c'est du code libre, hein, ça change tout.
Rappelons que nous sommes sur Mastodon. Oui.
C'est vraiment un bon outil, et alors, ils ont eu la bonne idée de le reprendre, mais ils n'avaient pas bien regardé les licences, et la licence, donc c'est la licence AGPL, donc là, ils ont changé un petit peu de fusil d'épaule, donc ils ont mis le code source. Alors, ils n'ont pas mis le code source de leur instance, qui serait modifié, ils ont remis le code source officiel de Mastodon. Donc c'est déjà une étape. On peut espérer qu'avec le temps, s'il y a des modifications qu'ils ont fait de leur côté, et c'est vraisemblable, ils les mettent aussi, donc que tout le monde puisse y jeter un œil.
Voilà. Ou alors, s'ils continuent à ne pas respecter les licences, on peut se dire que peut-être que les libristes arriveront à prendre une part de ce milliard de dollars, parce qu'ils pourront faire des procédures qui dureront 10 ans. Pour faire valoir leurs droits, peut-être. Aux États-Unis, ça marche un peu différemment. En tout cas, c'est quand même assez impressionnant. Si c'est sur les marchés, ça veut dire qu'ils attendent que ce soit rentable et qu'ils puissent en gagner, je suppose, de l'argent derrière. Bon, on verra ce que ça donne. On ne peut qu'espérer qu'ils se plantent allègrement comme ils sont plantés sur toutes les tentatives de réseaux sociaux qui ont été faites avant.
Alors, peut-être qu'ils vont se planter. Moi, effectivement, je suis d'accord avec toi. Mais on peut espérer qu'ils développent et qu'ils améliorent Mastodon d'une manière ou une autre. Parce qu'après tout, il y a peut-être des informaticiens de talent qui travaillent pour eux et qui vont améliorer le logiciel. Ça peut être sympa.
Dernier article, acteur public. En difficulté, le DSI de l'État va quitter son poste. Un article d'Emile Marzloff.
Alors, c'est un sujet difficile, parce que là, dans l'État, il y a une direction informatique qui essaye de faire un gros travail d'organisation, on va dire. Donc, c'est une direction interministérielle. Dans le passé, il y avait quelqu'un, Henri Verdier, qu'on appréciait beaucoup à l'April, qui a fait des choses très intéressantes. Il a eu un successeur, donc celui qui est en place maintenant.
Nadibou Anna.
Donc, pourquoi pas, hein, on ne connaissait pas forcément bien, mais là, il semblerait qu'il va partir de son poste sous alors un petit peu l'opprobre des journalistes au minimum, parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont sortis sur lui et qui parlent d'un management brutal où il aurait vraiment créé des problèmes avec ses troupes, des burn-out, des gens qui se barrent, qui claquent la porte. Donc, on ne connaît pas les détails.
Alors, sachant que dans ces services-là, il y a pas mal de gens qui ne sont pas fonctionnaires, qui peuvent être sous contrat privé avec des CDD de 3 ans, comme l'État peut en faire. Également, des prestataires, qui ne sont pas des contrats de travail, mais des contrats de service. Et dans les articles qui remontent déjà à quelques années, 2018-2019, on avait déjà des signes, on a retrouvé des articles qui parlaient de la difficulté de ces réorganisations, où il était accusé notamment d'avoir modifié les organisations sans avoir consulté personne, également d'avoir une vue à court terme, de manquer de vision.
C'est bizarre, mais là, de ce qu'on voit, moi je trouve pas ça pire, c'est pas si terrible que ça, surtout quand on compare avec d'autres méthodes de management dont on a pu entendre parler ou qu'on a pu vivre nous-mêmes. Donc on connaît pas les détails, hein, encore une fois. Mais c'est pas si terrible.
On a quand même voilà quelques retours dans ce qui lui est reproché. Et s'il part aujourd'hui, c'est qu'en tout cas, il n'a pas su calmer les esprits, parce que là, toute la presse est d'accord pour dire qu'il part parce que ça se passe pas bien. Et c'est ce qui nous a amené d'ailleurs à en faire notre sujet de la semaine, parce qu'on l'a pas annoncé. Mais notre idée, c'était justement de parler un petit peu de management et tous ces sujets-là. Et le management, c'est toujours compliqué. C'est un domaine qui est multidimensionnel. Et dans ce cas-là, de ce qu'on a pu en lire, il y avait des rivalités entre Mounir Majoubi, qui était secrétaire d'État au numérique, et Henri Verdier. Et que, donc, en 2018, Henri Verdier a été débarqué. Certaines personnes disent parce que Mounir Majoubi voulait mettre quelqu'un à lui à la place. Ce qui est possible, hein, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Disons que c'est pour moi un des sujets importants dans les questions de management, c'est qu'on peut avoir un projet logiciel et on peut avoir des stratégies variables, multidimensionnelles, avec plein d'acteurs. Quand on parle d'une organisation, souvent on dit « oui, l'État ceci » ou « telle entreprise cela ». Or, aucun de ces acteurs n'est un monolithe. Derrière, ce sont des individus qui ont tous leur stratégie à l'intérieur. Et pour moi, c'est un des premiers points difficiles dans les questions de management. C'est est-ce que tous ces gens qui bossent ensemble vont dans le même sens, ou est-ce qu'ils ont chacun leurs agendas respectifs et leurs objectifs propres et qui ne vont pas nécessairement dans une même direction.
Sachant que ça s'articule avec une culture d'entreprise et une culture du groupe dans lequel on est en train d'agir, et souvent ça découle d'une manière ou d'une autre du chef. J'ai cru constater ça dans les endroits où j'étais. En fonction vraiment de cette culture qui vient souvent du haut pour aller vers le bas, eh bien on peut avoir différents styles qui vont s'appliquer. Alors, il y a un style qui est un peu amusant, ou qui est une absence de style peut-être, que toi, je crois, tu rencontres, c'est le style des gestionnaires financiers qui sont juste là pour organiser vraiment que les chiffres soient bons.
Alors, c'est quelque chose que j'ai connu par le passé, donc on entend souvent parler, mais c'est toujours assez impressionnant de le voir en vrai au final. Dans une entreprise cotée en bourse, avec un actionnaire qui veut revendre ses actions, c'était le contexte dans lequel j'étais, et avec un patron qui, en gros, a été mis en place pour mener l'opération. Donc lui, toute la partie métier, c'est pas sa mission, il n'est pas là pour ça. Les gens qui le payent grassement sont les actionnaires, et ils veulent faire du bénéfice à la revente. Et donc, on a un système comme l'argent est le moteur et la mesure de toute chose. On sait qu'à chaque fois qu'il y a des opérations, il y a des bonus que les gens vont toucher, avec l'espoir qu'ils restent, qu'ils fassent leur boulot, etc. Mais finalement, le côté intégré où tu as un objectif qui consiste, par exemple, à faire un très bon logiciel pour le vendre, se perd en chemin parce qu'il y a toute une série d'indicateurs ou de sous-objectifs de gens qui jouent leur partie contre les autres et qui peuvent complètement faire perdre l'objectif principal. Pour moi, c'est un des trucs qu'il y a dans le logiciel libre bien souvent, pas obligatoirement à tous les coups, mais une chose qui je trouve forte dans le logiciel libre, dans beaucoup de projets, c'est que le seul objectif, c'est de faire un bon logiciel. Or, dans une entreprise, elle va avoir des objectifs de marketing, de capture de clients, de communication, d'essayer de faire la nique aux concurrents, essayer de prendre des parts, des choses comme ça. Et c'est pour ça que souvent, on se retrouve avec des trucs qui deviennent compliqués parce que il faut collecter les données des clients et pas juste leur faire fonctionner le logiciel. Et il faut s'assurer que leurs fichiers soient bien dans notre cloud à nous et pas chez eux ou ailleurs. Donc, on va se débrouiller pour pas leur faciliter la vie. Et on va faire comme ça des fonctions un peu tordues pour s'assurer que les gens aient le comportement qu'on voudrait. Et donc tout ça fait qu'au final, on va favoriser ce genre de trucs qui vont un peu nulle part ou un peu contradictoires, et où on va se perdre un peu en chemin, ou beaucoup.
Alors, ceci dit, là, tu parles des équipes qui font du logiciel libre, mais dans une certaine mesure, il y a beaucoup de ces équipes qui semblent ne pas avoir de management. Tu vois, il y a des équipes qui vont faire des logiciels libres, GIMP par hasard, Bah, c'est qui le chef ?
Bah, il n'y a pas de chef. Alors, il y a Jean, qu'on a interviewé ici, qui est devenu le mainteneur de Gimp depuis quelques mois maintenant. Mais effectivement, c'est un projet qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles, avec des gens qui font ce qu'ils ont envie de faire. Eux, ils n'ont pas du tout cette logique de part de marché. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient leur dire « Votre logiciel Photoshop, c'est mieux », ils lui disent « Bah, utilise Photoshop ». Et leur plaisir, c'est de faire un logiciel qu'ils aiment, c'est de faire le meilleur logiciel qu'ils ont en tête, et après, de prendre du plaisir aussi à développer les parties qui les intéressent. Et effectivement, dans l'interface de GIMP, si on peut avoir une vision critique de la chose, effectivement, des choses qui sont un petit peu incohérentes. On a deux types d'actions qui sont très similaires, mais dont le fonctionnement n'est pas proche. C'est pas très pratique à l'apprentissage du logiciel. Donc il y a à la fois une partie positive, c'est que GIMP reste un logiciel assez incroyable et qui fait énormément de choses avec des moyens extrêmement modestes. Personne n'est payé là-dedans et on arrive à faire des trucs spectaculaires. Wikipédia serait un autre exemple de trucs encore plus spectaculaires avec des gens qui ne sont pas payés pour faire le boulot.
Alors, faut se méfier avec Wikipédia parce que parfois ils peuvent être payés. Mais ils ne le disent pas forcément, ça c'est de la corruption, à la limite, il y a eu des cas.
Oui, effectivement, il y a des gens qui vont être payés par des entreprises ou des politiciens pour essayer de tordre le contenu de Wikipédia, puisque c'est devenu une référence. Et là, il y a des guerres d'édition, et c'est un peu un management encore différent, c'est un management où le fait que les gens ne soient pas d'accord et que ce soit une zone de conflit, même s'il y a des règles, ça reste une zone de conflit et intégrée dans l'institution elle-même. Et les gens doivent négocier par la confrontation aux faits. Un petit peu comme dans une forme démocratique, sauf que bon, on n'est pas avec des chambres de représentants, de choses comme ça. C'est un management non centralisé.
Ouais, mais je suis sûr qu'en creusant un peu, on peut découvrir des structures qui sont non visibles facilement de l'extérieur, même dans Wikipédia. Tu le sais, je le sais, il y a des comités, il y a des formes de groupes au-dessus qui vont pouvoir, dans les cas les pires, intervenir.
Il y a des administrateurs, oui. Il y a des administrateurs, et moi j'ai contribué à Wikipédia il y a très longtemps, début des années 2000. Mais de fait, j'ai vu un type avec qui je contribuais régulièrement claquer la porte et en disant « Les administrateurs ont trop de pouvoir, ce projet, j'y crois pas ». Et c'était début des années 2000. Donc je pense que oui, il y a matière à contester, mais après, le monde n'est jamais parfait.
Et le plus grand manager de tous, alors je vais voir, est-ce que tes yeux s'écarquillent ou est-ce que tu sais qui j'ai en tête dans le monde du logiciel libre ?
Linus Torvalds ?
Ah bah, quelque part, parce qu'il le dit lui-même, alors à quel point c'est vrai, il n'est plus un codeur, en tout cas c'est ce qu'il met en avant. Il n'est là que pour organiser des troupeaux de chats, et il est dresseur de chats, et comme on le sait, c'est très difficile. Et gérer des développeurs, des équipes de développeurs qui sont réparties dans le monde entier, qui sont des milliers. Certains sont payés, d'autres sont bénévoles. Je crois que la plupart sont payés maintenant. Enfin, en tout cas, plus de la moitié. Et derrière, il y a des boîtes, il y a des enjeux, comme tu disais, qui sont divers et variés. Il faut répondre parfois à des actionnaires ou à d'autres institutions. Ben, Linus Torvalds, c'est le grand dictateur bénévole au-dessus de cette pile. Donc c'est lui qui impose un petit peu sa vision du projet. Qu'est-ce que t'en dis ?
Bah, il a été largement décrié, il a même fait son mea culpa sur un certain nombre de choses, où il a été accusé d'être brutal, d'insulter les gens, etc. Donc après, c'est aussi le problème de ces projets qui appartiennent à un leader historique. Et c'est embêtant, parce que le jour où cette personne disparaît pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce qui se passe derrière ? Ça me fait penser à un projet comme Debian, qui est très connu pour son système de gestion où il y a des institutions, beaucoup d'institutions, beaucoup de règles, des votes, des représentations, une sélection drastique des gens qui rentrent dans le projet, etc. Avec vraiment cette idée d'avoir une gouvernance. Et je pense aussi à Blender aussi, où on a également un animateur du projet qui l'a emmené très très loin. Donc cette question de management, elle est très importante. On peut dire gouvernance, peut-être sera moins d'anglicisme, parce qu'effectivement, on peut aller dans un sens ou dans un autre. On peut insuffler des ambiances très différentes dans le monde propriétaire, notamment chez Amazon. Ils sont connus pour mettre tout le monde en compétition et qu'il y a des ambiances absolument dégueulasses au sein des équipes, y compris chez les hauts cadres. Il n'y a pas de management ou de gouvernance propre au libre, il y en a plein, et qui peuvent être radicalement différentes. Si on a une entreprise qui fait du libre, ça ne va pas du tout de la même façon que... Et même déjà entre plusieurs entreprises, ça ne va pas de la même façon de faire que par rapport à un projet comme GIMP.
Le logiciel libre, il n'a pas un management dédié, certes, mais on peut dire qu'il y a quand même des petites méthodes, genre agile, mais ça mériterait qu'on en parle et qu'on en fasse une émission en part entière. Je trouve que c'est super pertinent.
Ouais, pour moi, la méthode et le management sont relativement distincts. On s'arrête là, on se retrouve en 2022.
C'est ça, ben, je te souhaite de bonnes fêtes, repose-toi bien. Et
bonne fête à tout le monde.
Salut.